saine cause. Du bien commun et d'un monde vivable. Émission présentée par André Dunis.
Bonjour, ici André Dunis, votre fidèle chroniqueur. On s'approche des 60 émissions. Vous êtes quelques-uns à en dire du bien. C'est sympa. N'hésitez pas à écrire à la radio ou à me faire un petit coup de fil. 06 75 80 05 79. J'adore, y compris quand c'est très, on va dire, critique, comme cette personne que je salue, avec qui j'ai eu un petit échange mail, disant qu'elle est en Bretagne, qu'elle écoute Radio Couleur Chartreuse, mais qu'elle veut de l'air, une radio qui lui donne de l'air. Alors moi, je l'avais alourdi avec l'effondrement du climat, etc. Mais on a bien discuté, et du coup, je pense que tout le monde a retiré quelque chose. C'est donc, André Dunis, c'est votre nu-ménage, là, de la semaine, et aujourd'hui, c'est sur la culture. Et quelle culture ? Je sors d'avoir été spectateur invité par, il va se présenter tout à l'heure, par la compagnie des Petits Détournements, et c'était merveilleux, c'était à Saint-Béron, et c'était avec les écoles du primaire. Alors, Francis, c'était quoi ?
Alors, c'était la dernière représentation du spectacle L'Atelier des Petits Machins Trucs, un spectacle de cirque et musique en détournement d'objets. C'était la toute dernière hier de ce spectacle, après 11 ans de tournée de ce spectacle et plus de 650 représentations. Voilà, il était temps de dire au revoir à ce spectacle. D'autres ont pris la relève depuis, d'autres vont encore se créer. Mais celui-là qui était le premier spectacle, celui avec lequel j'ai co-créé la compagnie avec mon partenaire Gaël Lefebvre, celui-là, voilà, au bout de 11 ans, il était temps de lui dire au revoir.
Eh bien, je pense que beaucoup d'entre vous l'ont vu, qui étaient petits, qui sont devenus grands, et des grands qui sont devenus encore plus grands. En tout cas, je n'ai vu aucun des parents d'élèves s'ennuyer, bien au contraire. Alors, pourquoi vous faites ces détournements d'objets ordinaires? Parce que vous avez créé un comité machin truc.
Alors, le détournement d'objets, c'est vraiment la patte de la compagnie. Hein. La compagnie Les Petits Détournements, ça vient de là, c'est pour tout ce travail de détournement d'objets. C'est quelque chose qui nous anime depuis le début, depuis notre formation professionnelle avec Gaël des Arts du Cirque. C'est quelque chose qui nous amuse, c'est quelque chose qui nous fait vivre. Déjà, on aime l'objet, on aime les objets. Moi, je suis un collectionneur compulsif et un grand visiteur de brocante, donc j'aime l'objet ancien, j'aime les vieux objets, j'aime les objets qui racontent quelque chose, j'adore les objets qui ne servent plus à rien, et dans le monde moderne, ça peut aller très vite pour qu'un objet ne serve plus à rien, et on aime leur redonner, oui, une autre vie à ces objets, les transformer, donner au public un regard différent sur un objet qu'ils connaissent depuis toujours, un objet aussi simple que des arrosoirs, une brouette ou une roue de vélo.
Oui, et j'étais votre spectateur aussi dans les nuits d'été, hein, je recommande à nos auditeurs les nuits d'été au bord du lac d'Aigbelette où j'habite. Et vous aviez construit une sorte d'immeuble à deux étages, fait de briques et de brocs, avec un scénario là-dedans, et vous apprêtiez à recommencer cette année, non ? C'était pas la fête des Lumières cette année ?
Alors oui, c'est encore un peu, il y avait plusieurs événements. Ce que vous aviez pu voir l'année dernière, c'était des cabanes sonores, un spectacle qu'on avait pour la fête du lac, qu'on avait créé pour cet événement, hein, qu'on avait créé en deux jours. C'était un peu la commande, un spectacle spécifique, ce qu'on appelle nous un one shot, donc quelque chose qui va jouer une seule fois, qui s'était créé sur deux jours avec deux constructeurs de décors et sept artistes, dont trois encore élèves en formation professionnelle des arts du cirque à Chambéry et à Grenoble. Et on avait monté donc un spectacle autour du détournement d'objets dans une scénographie tout en récup, de vieilles fenêtres, vieux volets, vieux pianos agencés autour d'un échafaudage pour recréer un petit peu ce volume d'immeuble. Donc ça, c'était une première chose. La fête des Lumières, c'est encore différent. C'est quelque chose que la compagnie mène et coordonne depuis deux ans sur l'avant-pays savoyard. L'année 1, en, En 2019, ça s'est fait donc sur la commune de Novalaise, le dernier vendredi avant le 8 décembre, et c'était une espèce de festival des arts de la rue autour de la lumière, où la compagnie propose des décors, des créations, des scénographies. Elle propose aussi des artistes locaux, enfin à des artistes locaux de présenter des œuvres. Et ensuite, on travaille aussi avec des écoles de tout le territoire, de tout l'avant-pays, enfin de tout autour du lac, pour créer des œuvres en mettant certaines classes en lien avec des artistes, scénographes, plasticiens, calligraphes, pour créer des œuvres pour l'événement. Donc l'année 1, ça a été un franc succès dans le bourg de Novalaise, organisé avec l'aide de la mairie de Novalaise, l'association des commerçants et bien sûr la communauté de communes du lac. Et ça avait pris une belle petite ampleur pour cette première année en 2019. Et cette année, ça a été très compliqué avec la situation. On n'a pas pu le mettre en place en réel. Donc on a proposé le 4 décembre une visite virtuelle, donc une série d'une vingtaine de vidéos qu'on peut retrouver sur le YouTube de la compagnie. La compagnie Les Petits Détournements, Fête des Lumières de Novalaise. On peut retrouver ça sur YouTube. C'est ces vidéos qui présentent ce qu'on aurait dû présenter en vrai, en fait, devant les gens pour cet événement, puisque quand on a appris le reconfinement et tout ça autour du mois d'octobre, nous, le gros du projet était déjà engagé. Ce genre de projet s'engage sur l'année entière. Donc on a voulu absolument l'emmener au bout, ce projet. Les plasticiens avaient déjà travaillé, les écoles avaient commencé à travailler dessus, on avait tout calé, et on voulait pouvoir emmener au bout tout le projet et le présenter quand même, d'où cette vingtaine de vidéos qui présentent le travail des compagnies, des élèves, de nous, de la compagnie, puisqu'on fait quand même la scénographie générale de l'événement. Donc vous pouvez retrouver tout ça sur YouTube sans trop de problèmes.
Ah voilà, une bonne façon de faire de fête de fin d'année en famille, c'est de regarder ces vidéos sur YouTube faites par ces compagnies. Vous ne serez pas déçus, si j'en juge par les deux ou trois spectacles que j'ai vus d'eux. Donc on tape YouTube, et dans YouTube on tape
Petit Détournement, alors soit Petit Détournement Assaut Le Clou, puisque l'association qui porte la compagnie s'appelle l'association Le Clou, le Comité de Libération des Objets Utiles.
Ah, c'est joli ça.
Voilà, donc le juste clou, comme un clou. Et sinon, on peut la retrouver en tapant Fête des Lumières. Alors par contre, rajoutez Novalaise dans la recherche. Sinon, il y a une autre ville en France où on se fait voler la vedette sur YouTube. Mais si vous rajoutez Novalaise, normalement c'est bon.
Eh ben voilà. Alors, est-ce que c'est seulement que vous êtes un fanat des objets de brocante, devenus inutiles ou inemployés, ou est-ce que, alors c'est la question à 1000 francs, ou est-ce que, à travers des tournements, moi ce que j'ai vu hier soir, ce que j'avais vu dans votre spectacle du petit immeuble au bord du lac, là, c'était absolument sublime. Est-ce que c'est pas aussi une façon de faire travailler l'imaginaire des spectateurs, des gens d'ordinaire, qui peuvent aller gratuitement à des spectacles encore aujourd'hui? Non, eh ben non, encore hier, et j'espère demain. Travailler l'imaginaire des gens ordinaires pour que, en quelque sorte, le monde ne se réduise pas au monde qu'on voit aujourd'hui, les 9 milliards de tonnes de plastique, le plastique partout, les grandes surfaces essentielles ouvertes, mais les librairies inessentielles pas ouvertes, le spectacle vivant pas ouvert, le théâtre pas ouvert, etc. Est-ce que votre détournement, j'adore ce terme, c'est seulement de faire vivre, comme je l'ai vu là, les tuyaux de poêle qui deviennent des trombones, les petits canards qui deviennent un piano, la brouette qui sert à mimer et à faire des jeux dans l'espace, et qui fait qu'on la regardera plus jamais de la même façon, comme vous le dites si bien, ou bien est-ce que vous êtes en train de stimuler l'invention d'un monde nouveau? Je m'explique. Est-ce que vous n'êtes pas en train de nous obliger à ne pas regarder le monde que d'objets dans lesquels nous vivons, société de consommation outrance, il n'y a qu'à aller à la déchetterie de Novalaise pour se rendre compte du désastre, mais que vous êtes en train de nous dire qu'il y a une vie. Derrière cette vie marchande des objets, il y a une vie de l'imaginaire, il y a un autre monde, il y a une autre façon de vivre, peut-être dans cette façon de les envoyer paître, les objets, ou de leur donner un sens plus artistique. Si une brouette devient un instrument musical, alors peut-être qu'on pourrait sortir de ce monde qui nous est présenté partout, hein, comme le seul monde possible.
Ben, en tout cas, c'est vrai que ça permet de créer un décalage dans le regard du public. C'est un peu prétentieux de dire on leur apprend, puisque chacun apprend tout seul à son rythme avec ses expériences, mais en tout cas on aide à apprendre aux gens à décaler le regard, à regarder autrement, typiquement certains objets de la vie de tous les jours comme les brouettes ou les roues de vélo, ou certains objets qui paraissent aujourd'hui dans notre société maintenant complètement inutiles. Je pense au Minitel qu'on a réutilisé sur un projet d'exposition. Je pense à des vieilles radios des années 50 qu'on a utilisées aussi dans une scénographie. Donc des objets qui pourraient paraître de plus aucune utilité ou d'une autre époque et qui ne pourraient servir qu'à décorer, ben en fait non, peuvent servir encore à beaucoup d'autres choses. Donc c'est interroger chacun sur son rapport déjà à l'objet, son rapport à ce qu'est un déchet. Puisque tout à l'heure vous parliez de la déchetterie de Neuvalaise, nous une déchetterie c'est presque une cour de récréation quand on est dans un processus de création, parce que c'est là où on va piocher des idées, c'est là où de temps en temps on va récupérer, sauver un objet du coffre d'un monsieur ou d'une dame qui était prêt à le jeter et qui en fait il repart avec nous pour une deuxième vie. Donc c'est vrai qu'on aide en tout cas à réinterroger la place de cet objet et quand est-ce qu'on considère qu'un objet n'est plus bon à rien. C'est-à-dire que nous, on repousse ce moment-là. Alors bien sûr, même dans le travail de la compagnie, ça nous arrive de jeter des choses à la déchetterie, hein, mais généralement, c'est déjà qu'elles sont venues d'une poubelle, qu'elles ont servi une ou deux fois dans des spectacles avant de refinir dans la déchetterie quand vraiment on l'a emmené au bout, cet objet, et qu'on ne peut plus rien en faire. Pour certains, même quand il tombe en lambeaux entre nos mains.
I can understand it. I can look the other way. It's underhanded. So what? That's life today. I didn't plan it. Maybe I don't have a right to say. But while I'm on the planet, if it's underhanded, let's call it and let the fallout fall out. Cause we're here tomorrow, but we're gone today. Too many people, nothing to say. Too many people, nothing to say. Nothing to say. Nothing to say. What's up with the planet? Where did we lose our way? Who's got the hand on the handle? Who's got the final say? Why we're here today. Let's be candid. If it's underhanded, let's call it. Let the fallout fall out. We're here tomorrow, but we're gone today. Too many people, nothing to say. Too many people. Thank you.
Est-ce que ça veut dire que vous aidez tout le monde, à commencer par les enfants hein, qui étaient emballés, heureux, qui ont applaudi et qui ont beaucoup ri? Enfin, ça m'a beaucoup plu, hein, ça nous redonne une âme d'enfant. Est-ce que vous voulez dire que vous aidez à redonner une âme d'enfant, c'est-à-dire un regard neuf sur tous ces objets, non pas seulement en tant qu'ils pourraient subvertir en autre chose, ou qui peuvent avoir un deuxième réemploi, comme vous, je fréquente la déchetterie de Novalaise, où je suis connu pour piller les coffres, hein, avant que ce soit le désastre, que ce soit des paquets de bouquins, des godasses, soit quel fil au Secours Populaire de Chambéry ou ailleurs, mais je vois jeter des trucs. Voilà. C'est pas la réutilisation que j'interroge, que j'aimerais qu'on interroge avec cette émission culture. C'est quoi la culture? Est-ce que la culture, entre autres, ça ne serait pas de se demander... Ben, d'où vient la brouette en plastique de nos enfants? Qui l'a fabriquée? Dans quelles conditions? Et pourquoi en plastique? Et pourquoi 9 milliards de tonnes? Et où ça va après? Ces objets, où ils vont? Est-ce que vous ne contribuez pas à casser la chaîne, comment on peut appeler ça, du ronron de la pensée prise dans les automatismes du consumérisme quotidien?
Alors, casser les automatismes de pensée, je pense que oui, à travers cette mise en décalage, on aide un peu à ça. Après, réinterroger réellement le citoyen ou le consommateur, je ne sais même pas trop quoi dire à ce niveau-là, certaines compagnies le font sûrement bien mieux que nous, parce que c'est vraiment leur trait de caractère en tant que compagnie, c'est ce qu'ils défendent. Nous, on l'évoque, on l'effleure à travers tout notre travail, mais c'est vrai qu'on essaime des graines et après c'est aux gens de faire le chemin. Dans nos spectacles, même si ce qu'on fait s'apparente maintenant à ce qu'on appelle du surcyclage et que c'est complètement à la mode de pouvoir recycler, surcycler des objets, c'est pas, on veut l'utiliser sans avoir à le nommer, sans avoir à s'en vanter. Pour nous, plus que leur montrer que c'est, enfin, en tout cas, se vanter que c'est possible, c'est juste le faire et puis peut-être donner des idées aux gens à eux-mêmes, réinterroger. Mais comme je disais, on va pas, de notre côté, des compagnies, certaines le font bien, certaines le font mal, selon moi, mais on va pas éduquer le public sur un sujet, on va essaimer une graine dans leur esprit. Après, c'est ce que les gens vont côtoyer, c'est les conversations qu'ils vont avoir, c'est les rencontres qu'ils vont faire qui vont peut-être permettre à cette graine de germer. Nous, on aura aidé à la planter.
Oui, et dit autrement, comme dit Gaston Bachelard hein, dans L'eau et les rêves, on n'a pas bien, on changera pas le monde si on ne l'a pas rêvé. Je dis ça parce que la question de l'imaginaire pour tous ceux qui veulent changer ce monde a été très très peu abordée, que ce soit dans toutes les oppositions syndicalo-politiques ou même associatives. On a très peu travaillé la dimension rêver un autre monde qui ne soit pas celui-là. Et ça, c'est une fonction fondamentale. Mais vous faites... vous faites la graine, vous semez une graine. Et oui, tout le monde ne peut pas, en deux heures de spectacle ou une heure et demie de spectacle, semer toutes les graines. Donc vous, c'est la joie de la subversion qui s'arrête à la subversion des objets. Oui. Et au rêve que ces objets-là, qui ont enlaidi notre vie, eh ben, ils redeviennent beaux, joyeux, gais, tout le monde rigole. Et on sort de là, on a quelque chose d'allégé, c'est-à-dire on n'est plus pris dans... Les objets ne nous possèdent plus quand on vous quitte.
Ah non, nous, voilà, il y a ce côté où tout d'un coup, c'est à nouveau, c'est à l'humain de dompter l'objet, c'est, voilà, et pas se retrouver enseveli sous tout ça. Et là, je pense que c'est vrai qu'on a ce travail-là de montrer, en tout cas, de faire vivre cette réappropriation, ce domptage de l'objet. On est maître de l'objet, c'est nous qui en faisons des choses, même si dans la vie, comme tout à chacun, on se retrouve en effet souvent esclave de ces objets. Et donc là, on réinverse un peu la tendance, c'est nous qui les emmenons à faire des choses, et les choses qu'on a décidées, pas les choses que l'objet nous impose par son utilité et sa fonction première.
Formidable, vous avez entendu ? Il ne faut pas, on est toujours possédé par les objets qu'on possède. Plus on possède, plus on est possédé. Si vous avez un yacht en mer de 100 millions d'euros, comme mon copain Abramovitch, hein, des pétroles russes, qu'est-ce que vous voulez foutre avec ça? Vous devez avoir un hélicoptère au-dessus si jamais on vous attaque depuis la mer, et vous devez avoir un sous-marin en dessous si on vous attaque depuis les airs. Vous devez penser à l'équipage, aux pannes possibles, vous consommez vos 10 tonnes de carburant à l'heure. Enfin, c'est pas une vie, vous êtes possédé. Par contre, si vous allégez et vivez dans une yourte ou dans une petite maison avec le minimum, les bouquins, en allant aux librairies de Chambéry que j'adore, je vais pas les reciter, hein, Jean-Jacques Rousseau, Garin et compagnie, il y en a 3 ou 4 là, qui sont des machines à rêver aussi, les livres et la musique, eh bien, vous n'êtes pas possédé par les objets. Aujourd'hui, on accumule une quantité de saloperies sur nous-mêmes, hein, en vêtements, quand on regarde ce qu'il y a dans les penderies ou autres, que cette société de consommation nous possède à travers ces objets qui nous possèdent. Mais, quand même, il y a une question qui me turlupine. Alors, vous êtes une compagnie militante ?
Non, on n'est pas une compagnie militante. Surtout pas, j'ai envie de dire, de notre côté. D'autres le font très bien. On est une compagnie composée d'individus dont certains sont militants. Et ça, c'est bien. Et même, je pense que tant qu'on reste une compagnie composée d'individus militants, eh bien, on a la chance de pouvoir, au sein de la compagnie, avoir des avis divergents. Ça veut dire qu'on ne milite pas tous dans le même sens, forcément, toujours. Là où devenir une compagnie, une entité militante, ça sera aller tous dans le même sens. Et puis, bon, bah, nous, ça nous fait toujours un peu peur quand on va tous dans le même sens. Non, je pense pas qu'on est une compagnie militante. Déjà parce que nous, on revient aux fondamentaux, du cirque, qui est un art populaire, un art de divertissement. Et moi, je pense pas que ça doit s'opposer au grand monde de la culture, le monde du divertissement, parce que ça, quand c'est bien fait, c'est aussi joli. Et nous, on aime ce côté art populaire. Le cirque parle à tout le monde, doit parler aux deux enfants de 3 ans jusqu'au papy, mamie. Et quand les gens viennent nous voir en famille, on veut que ça plaise autant aux parents, aux grands-parents qu'aux enfants de tout âge. Et je pense qu'à ce niveau-là, le pari, nous, est très souvent réussi, parce que c'est vraiment notre leitmotiv, cette notion d'art populaire et de divertissement. Donc, c'est important qu'il y ait des artistes militants, c'est important qu'il y ait peut-être même des collectifs, des compagnies militantes. C'est pas ce qu'on défend en premier lieu. Si nos idées personnelles peuvent transpirer de nos créations, c'est bien. Si on arrive à vous les chuchoter à travers nos créations, c'est bien, mais on ne viendra pas vous les hurler à la face.
Écoutez, vous qui nous entendez maintenant depuis 60 chroniques, j'ai vu dans des écoles et j'ai vu aussi en grand public une compagnie de femmes. Ça ressemblait à Good Planet, vous voyez ce que je veux dire, Good Planet, là, de l'hélicologiste, celui qui se balade en hélicoptère puis qui plante des arbres pour Yann Arthus Bertrand, qui m'énerve profondément, hein. Plus il pollue et plus il dit qu'il ne faut pas polluer, et plus il nous montre des photos magnifiques de grandes traînées noirâtres, bleuâtres, violâtres, pour nous dire que ça, c'est des compagnies qui font dans les forêts du Canada du pétrole de schiste. Regardez comme c'est beau, vu des airs. Mais enfin, l'homme détruit la planète. L'homme, comme disait Brecht, hein, le Napoléon conquis la Russie, n'avait-il pas au moins un cuisinier avec lui? L'homme, quand on regarde l'homme, c'est pas l'homme qui construit des monstres comme celui qu'on construit en ce moment en Sibérie avec le financement du Crédit Agricole, de Total. à une usine de je ne sais plus combien, là, 2,2 milliards pour extraire le pétrole dans des glaces. Et ce pétrole qui a dézingué l'humanité. Mais non, ce n'est pas le pétrole, ce n'est pas l'homme, c'est un système. Bon, bref, je vais encore vous embêter avec ça. Donc, on n'est pas à... On est dans les arts du divertissement, mais ce n'est pas un divertissement divertissant seulement, comme on voit la télé nous présenter des pop-pop girls, des films, des westerns, des choses comme ça. On est dans quelque chose qui nous aide à nous séparer du mode de vie qui va avec un système qui détruit le monde et la nature. Alors, j'avais donc vu une compagnie, mais à l'opposé de celle que vous irez voir, hein, la compagnie des petits détournements, avec ce comité de libération des objets, hein, utile, inutile, le clou, où ces dames nous disaient « Ah, mais il faut protéger la planète, good planet », alors qu'ils disaient aux enfants « Mais ne jetez pas vos... » Enfin bref, c'était insupportable. L'art, ce n'est pas de faire du militantisme. L'art, c'est de renverser le regard qu'on porte sur le monde. Et la première des choses, c'est d'en rêver un autre monde. Et ben, c'est ces rêves-là dont on est un peu privé, puisque la culture n'est pas essentielle. Est-ce que pour vous, la culture, c'est essentiel ?
Ah, ça c'est la grande question. Sur les, bah, typiquement, c'est une question qu'on a posée à l'ensemble des artistes qui ont travaillé sur la Fête des Lumières 2020, et une des vidéos sur la chaîne YouTube de la compagnie traite de ça. La culture est-elle essentielle ? Bah, c'est une question un peu violente en fait qu'on nous a renvoyée en plein au visage ces derniers mois. C'est-à-dire, il y a toute la question technico-administrative, d'ouverture, fermeture, mais au-delà de ça, juste en termes de symbolique, la question de l'essentialité d'un métier, d'un poste dans une société, c'est d'une violence extrême en fait, de se faire renvoyer cette question de « est-ce que je sers à quelque chose ? Suis-je important ou pas ?»
Ne faites pas du saucisson.
Comment ?
Faites pas de saucisse.
Eh ben non, mais peut-être je vais commencer, et puis j'aimerais sûrement en plus apprendre, j'adore apprendre des choses nouvelles. Mais non, c'est vrai que cette question de l'essentialité, enfin, des cultures est-elle essentielle ? J'ai beaucoup aimé la réponse d'un ami sur la Fête des Lumières, donc Samuel vient de la compagnie Prends Soin de Toi, je vais en profiter et je vais utiliser sa réponse. Donc lui, il est conteur et créateur de scénographie sur la commune de Pressin. Et du coup, il disait, ben, en fait, cette question d'essentialité, cette question de rêver la société, il avait un exemple qui était très très probant, que j'aimais beaucoup, à dire, ben voilà, on peut dire ce qu'on veut sur l'art, mais c'est essentiel pour tout, même la science, pour faire avancer la société, même pour les pro-sciences. Si Jules Verne n'avait pas rêvé ce voyage de la Terre à la Lune, et si 30, 40 ans plus tard, 50 ans plus tard, Méliès ne l'avait pas mis sur pellicule, est-ce que les scientifiques, encore 50 ans ou 40 ans plus tard, auraient osé rêver, essayer de le faire? C'est-à-dire qu'il faut commencer par des artistes qui vont rêver une idée pour qu'ensuite... les citoyens, les scientifiques, les techniciens, même peut-être les technocrates, peut-être qu'il faut les garder, ceux-là, je sais pas. Et en tout cas, tous ces gens-là, pour qu'ils se permettent de rêver une possibilité, il faut déjà que l'artiste, à un moment donné, leur ait donné la petite graine pour faire ce chemin dans la tête. Et en effet, est-ce que les scientifiques auraient osé imaginer, et les politiques aussi auraient osé imaginer... qu'on puisse aller sur la Lune si à un moment donné c'est pas des artistes, des auteurs, des cinéastes, des réalisateurs qui avaient déjà avant eux permis ce rêve. Donc le rêve, voilà, faire rêver la population, c'est aussi l'aider à imaginer des autres possibles, en fait. Après, c'est à la société et à chaque individu d'en faire ce qu'il veut de ces autres possibles. Est-ce qu'on les veut, est-ce qu'on les veut pas, qu'est-ce qu'on est prêt à sacrifier pour ça? Mais en tout cas, se donner la possibilité d'y penser, généralement, c'est l'artiste qui peut aider à ça.
Tout à fait. Voilà, nous sommes au cœur de notre sujet. Peut-être que je vais faire une émission sur la poésie, hein, cette contrée énorme où tout se tait, comme disait Apollinaire, mes auteurs préférés en poésie. L'art, c'est l'art, les artistes, c'est la capacité de nous ouvrir le chemin des possibles. Peut-être pourriez-vous nous dire deux, trois mots de vos projets pour qu'on en soit au rendez-vous, puisque deuxième déconfinement, troisième reconfinement et troisième et dernière sortie de confinement, on espère. Vaccination, Big Pharma s'en met plein les poches. Comment on pourrait venir vous voir pour laver un peu le cerveau de toutes ces utilités, de toute cette économie de croissanciste et abondantiste qui nous met à genoux parce que l'homme est malade. n'y a pas que la planète qui est malade, l'homme est puissamment malade. Vous avez vu qu'il y a un tiers de plus de consultations psychiatriques, psychologiques. Tout le monde va mal, et ce n'est pas le virus, c'est une société qui organise l'incroyable séparation de l'humain avec l'humain et de l'humain avec la culture. Voyez les États-Unis, c'est les plus impactés, c'est là où il y a le moins de culture et le moins de librairies, le moins de spectacles vivants, il n'y a pas les intermittents. Et voyez, ils en sont alors, combien là, 200 000 morts, non, 300 000. Le capitalisme, le libéralisme, c'est l'interdit de penser un autre monde. Thatcher, Tina. There is not alternative. Alors, vous voyez, je n'ai pas trop fait de. Je parle plutôt italien, moi, parce que j'étais élève du collège de Pont-de-Voisin, lycée technique, hélas. Il n'y avait pas d'anglais, il y avait que de l'italien. Mais Tina, il n'y a pas d'autre monde possible, disait Thatcher, disait Reagan, disaient les penseurs du néolibéralisme, comme on dit. Et une première fonction de la culture, c'est justement d'ouvrir l'imaginaire d'autres mondes. Alors, qu'est-ce que vous allez nous imaginer, nous aider à imaginer dans les prochains spectacles ? C'est quoi que vous allez faire là ? Parce qu'on n'a pas envie que vous mouriez. Plein de compagnies sont au bord de l'agonie là. Alors, ouais. On ne va pas revenir sur l'agonie d'un tas de compagnies qui sont au bout du rouleau parce qu'il faut payer les loyers, il faut payer le chauffage, il faut payer les employés. Vous-même, tiens, on va d'abord commencer par ça, avant les autres projets. Vous avez dû vous séparer de certain nombre de gens.
Je n'ai pas envie de passer beaucoup de temps à me plaindre, puisque pour le coup, la compagnie Petit Détournement, on fait partie, à l'heure actuelle, pour l'instant, des compagnies qui s'en sortent assez bien. On a pu maintenir des projets tout au long de l'année, parce qu'on avait des projets qui étaient liés à des subventions culturelles publiques, donc qui ont pu se maintenir. On a eu des projets qui étaient liés à des interventions en école qui, sur certaines périodes de l'année, ont pu se maintenir. On fait de la création de scénographie et de décors pour d'autres que pour nous-mêmes, et on a eu des projets cette année, entre autres sur le premier confinement, où on a créé l'intégralité d'un décor d'une escape game de Chambéry.
C'est quoi escape game?
Alors, une escape game, c'est ces lieux où on peut faire où on va jouer pendant une heure, où on se fait enfermer dans une pièce et il faut, avec des énigmes et des codes et des casse-têtes, arriver à en sortir. Et donc il y a une très belle escape game à Chambéry qui s'appelle La Grande Évasion, enfin à côté de Chambéry, et ils nous ont fait travailler sur la création de leur dernière scénographie, donc 30 mètres carrés d'un laboratoire d'un savant fou, où on a fabriqué l'ensemble des accessoires, des machines, de l'éclairage, des peintures trompe-l'œil sur les murs. On était une douzaine d'intervenants de la compagnie, de peintres trompe-l'œil, scénographes, menuisiers, électroniciens, à travailler dessus. Donc voilà, nous on a eu des choses. Beaucoup de compagnies de copains s'en sont pour l'instant beaucoup moins bien tirées. Ça n'empêche qu'on est quand même assez effrayé de la suite, parce qu'autant on a pu tenir quasiment une année entière dans ces conditions, autant comme beaucoup de compagnies qui s'en sont sorties ne tiendront pas beaucoup plus qu'une année sur ce système-là. Et donc oui, on reste un peu inquiet de ça. Des gens, nous, la compagnie a dû réduire un peu la voilure ces derniers mois. Certaines personnes sont parties parce que ça a été compliqué aussi dans le travail de bureau des compagnies de spectacle de perdre un an entier de travail en mars-avril dernier, puisque généralement la diffusion et la programmation des dates se fait jusqu'à un an en amont. Donc en mars-avril dernier, c'est une année de travail qui s'écroule en deux mois. Nous, on a annulé presque 70 dates en mars-avril pour les mois d'avril, mai, juin, juillet, août.
Combien de dates ?
70 à peu près, tout spectacle confondu. Donc c'est des heures et des heures de travail en amont qui partent en fumée à ce moment-là. Ça a été très dur dans notre compagnie, ça a été très dur dans plein de compagnies sur ce sujet-là. Des gens, des artistes, des techniciens, des administrateurs de compagnie changent de voie, changent de métier, se réinterrogent. Donc voilà, nous, la voilure a quand même beaucoup diminué ces derniers mois. On va se retrouver à devoir se séparer d'une partie des mètres carrés que nous louons pour la compagnie, parce qu'il faut prévoir.
Alors dites où vous êtes, c'est un lieu merveilleux.
Alors en fait, la compagnie a son hangar basé à Pont-de-Beauvoisin. C'est là qu'on a l'atelier de fabrication des décors, le stockage des décors des spectacles, une salle d'entraînement et les bureaux de la compagnie pour pouvoir donc.
C'est une ancienne usine
de meubles, une des nombreuses usines de meubles qu'il y avait à Pont-de-Beauvoisin.
Qui ont fait faillite grâce à la mondialisation, IKEA et compagnie.
C'est ça, qui ont un peu périclité dans les années 80-90 et donc il restait
beaucoup. Pont-de-Beauvoisin était dans les années 50, excusez. Hein. Dans les années 50, où j'étais modeste élève du lycée technique Isère, hein, nous étions 100 et quelques là dans le même dortoir, j'étais interne, et où ça pétait la vie, comme je raconte à tout le monde. Il y avait les sculpteurs sur bois, les menuisiers, les. Hein, bon, je ferai une prochaine émission avec le musée de les machines à bois, vous l'avez visité.
Oui, oui.
Et quand je rentre ici, eh ben, qu'est-ce que je vois? Dans la compagnie des petits détournements, des artistes de cirque qui fabriquent à tour de bras avec de la menuiserie, des ateliers. C'est un coin merveilleux. Vous devriez l'ouvrir au public. Donc, ça s'appelle.
Le lieu, c'est le hangar de la compagnie. C'est vrai qu'on n'a pas.
Le hangar de la compagnie des petits détournements.
On n'a pas vraiment de lieu.
Je ne sais pas si on peut donner l'adresse. Hein. Vous n'avez pas trop.
Non, parce qu'on ne peut pas vraiment l'ouvrir. En fait, on adorait, mais à l'heure actuelle, avec toutes les normes pour recevoir du public, bon, en dehors même de cette année, hein, en général, les normes pour recevoir du public sont drastiques. On n'a jamais pu s'y plier et du coup, on n'a pas eu l'énergie à mettre pour se plier à ces normes-là, puisqu'on est avec les tournées.
Je pense que ça mériterait, par petit groupe, de venir en discuter comment un artiste, dans son processus de création, avant de voir on terminera par vos prochains projets, mais comment dans le processus de création, moi qui ai fait des formations d'enseignant, hein, prof de lycée et instituteur, j'ai toujours beaucoup milité, étant moi-même fils d'ouvrier agricole et de fondeur en aluminium, bref, et faisant un grand jardin de 800 mètres carrés, j'ai toujours milité dans l'idée que la plus haute intelligence créative était quand on bricolait des objets, quand on construisait des légumes, quand on montait des pièces de spectacle, qu'on écrivait, quand on écrit un roman, de la poésie, hein, c'est un bricolage, hein. Eh bien, c'est là que la pensée prend son envol, c'est là que, comme le dit Piaget, sans schème d'action, il n'y a pas de schème de pensée. Sans intelligence pratique, il ne peut pas y avoir d'intelligence théorique, d'où nos élites déconnectées. Fermons la parenthèse. Donc, on est dans ce hangar de fabrication. Bon, alors, ils ne veulent pas le faire visiter, ils ont bien raison, mais ça le mériterait.
Alors, un jour, on arrivera à ça.
Alors, ce que je dis aux gens qui nous écoutent, écoutez, vous qui êtes en Chartreuse, qui êtes dans Grésivaudan ou dans le Vercors, prenez le train, enfin ce qu'il en reste, hein, vous avez vu notre émission TER, hein, vous avez tout écouté, eh bien prenez le TER, Chambéry, changez à Chambéry, descendez à Pont-de-Beauvoisin, faites 500 mètres à pied et visitez le musée de la machine à bois. Puisqu'ils veulent pas nous faire visiter leur hangar, allez au musée, c'est une merveille des merveilles. Quand vous bricolez, est-ce que ça vous donne des objets, dans le processus de création, est-ce que ça vous donne, comme je semble vouloir vous le faire dire, vous n'êtes pas obligé de le dire, est-ce que ça stimule votre processus de création d'avoir un atelier de bricolage avec des panneaux de bois, des machines, des scie sauteuses?
Ah bah oui, de toute façon, d'avoir maintenant depuis quelques années... les outils à la mesure de nos idées, c'est quand même bien plus pratique, hein, puisqu'on a commencé les premiers bricolages de spectacles dans notre salon. Là, c'était avec juste un marteau et ce qu'on pouvait trouver, et puis une perceuse. Là, d'avoir vraiment un atelier avec toutes les machines et les différents corps de métiers et compétences autour de nous, bien sûr, ça stimule ce travail collectif, cet échange entre le menuisier de formation, l'électronicien de formation, le scénographe, la peintre et tous ces échanges. Avoir un lieu où les artistes et les techniciens peuvent se croiser, l'échange est stimulant de toute façon. Et puis une dernière chose, nous, qui est stimulant dans la compagnie, et que ça, je pense que c'est stimulant en général, c'est de temps en temps le manque de moyens. Parce qu'à un moment donné, il y a certaines étapes du processus de création d'un spectacle Quand on n'a pas assez d'argent ou pas assez de moyens pour mettre en place quelque chose, eh ben, il faut stimuler le processus de création, il faut stimuler les idées, parce qu'il va falloir passer outre cette problématique. Et
c'est là que vous trouvez un vieil arrosoir en plastoche.
Ben, c'est là où on réinterroge, on retransforme, on fait bon, bah, alors
un appareil à jongler.
On en fait, voilà, une massue de jonglage, on en fait un saxosoir, donc un saxophone arrosoir, c'est déjà arrivé dans un autre spectacle. Voilà, il faut des fois, de temps en temps, c'est pas toujours salutaire, mais de temps en temps, le manque de moyens, ou le manque de temps, enfin, en tout cas, un manque, nous oblige à se réinventer et à être encore plus créatif.
Alors, dans les projets à venir, que l'on ne peut pas rater, hein, vous avez compris, hein, il y a leur usine qu'on peut pas encore visiter. Franchement, je vous dis, il m'a fait visiter, ça vaut le déplacement. Tant pis, hein, si vous êtes harcelé, ça pourra vous faire une petite rentrée financière quand même. Hein. Et il y a ce musée de la machine à bois de Pont-Beauvaisin-Isère, hein, sur la place, la grande place, là, je ne sais plus comment on l'appelle. Il y avait des ateliers. Avant, je me souviens, il y avait des ateliers d'artisans du meuble. Bon, voilà. Là, nous sommes dans un endroit où cette usine était une usine à meubles, où Pont-Beauvaisin inondait la région de très beaux meubles. Qui durait 40-50 ans. Aujourd'hui, on a l'IKEA, hein, qui dure 3 ans, puis on balance à la déchetterie. J'en vois tous les jours de ces belles armoires IKEA. Hein, elles sont belles, hein, métal laminé, avec de la colle chimique. Ça pourrit tout. C'est brûlé en incinérateur. C'est une horreur. Et comme ça, on a nos meubles qu'on casse et qu'on jette. Bon, bref. Alors, vous allez nous donner quoi comme rendez-vous? Parce que nous, on a envie de voir la suite. C'est pas parce qu'on a vu 3-4 spectacles qu'on est satisfait sur l'ouverture que vous faites de notre imaginaire.
Donc il y a encore des spectacles qui tournaient jusque là et qui vont continuer de tourner, entre autres un duo Cordelis et vélo acrobatique de cirque qui s'appelle
Cordelis et vélo acrobatique,
hein. Voilà, donc ça c'est un duo dans la compagnie qui tourne depuis 6-7 ans, qui s'appelle les Rétrocyclettes. Donc un duo de deux artistes femmes et un régisseur technicien. Généralement, on a beaucoup de spectacles où on est sur ce format-là, deux artistes sur scène accompagnés d'un technicien en tournée. Et donc ce spectacle-là.
Alors c'est Cordelis
et vélo acrobatique. Donc le Cordelis, c'est monté à la corde. Hein. C'est une corde de 6 mètres de haut accrochée et où l'artiste acrobate fait des acrobaties et des contorsions dans la corde. Donc ça c'est un spectacle qui tourne encore et qui va encore tourner quelques années, qui a déjà fait plus de 200 représentations un peu partout, et alors pour le coup bien plus souvent à l'étranger que pour l'atelier des petits machins trucs. Elles ont beaucoup joué en Italie par exemple, et donc ça tourne encore. On a deux expositions interactives qui tournent encore.
C'est pas Bazar et Quincaille, ça? C'est pas eux qui vous ont inspiré, mes copains de Bazar et Quincaille?
Qui nous
coucou ont... Bazar et Quincaille, puisque vous êtes dans le Royan, hein. Vous connaissez?
Si, on connaît.
Comment
mais...
on prend une vieille caravane, on met 2-3 gars, on enferme 5-6 personnes dans la caravane, on leur projette une tempête, et il y a 5-6 gars qui se coulent la caravane.
Alors on parle pas
sur
du
une
même.
Musique d'enfer, et ça s'appelle Bazar et Quincaille.
Alors...
Mais il y a aussi beaucoup d'artistes de cirque qui, alors eux, ils ont des thèmes plus militants que vous, sans doute, au moins en parole, mais ils vous font une scénographie, on peut dire, hein, si on reprend des grands mots, avec des cordes où il y a des gens qui s'envoient en l'air, mais sur des thèmes un peu révolutionnaires. On balance le capitalisme aux oubliettes, etc.
Alors, on parlait pas du
pas
même.
Ça.
Moi, je parle. Donc, on
Bazar et Quincaille.
Oui, mais moi, je parle d'une compagnie qui s'appelle Bazar et Quincaille, mais on parle pas de la même alors,
ah
parce
bon.
Que c'est pas du tout la même chose.
Ouais, ah ouais. Bon,
non, je pensais
autre,
que vous parliez d'amis qui sont dans l'Ain, donc qui
c'est ont... ça.
Ah, dans l'Ain?
Oui.
Ah oui, alors...
Je parle de Bazar et Quincaille qui jouent beaucoup dans l'Ain. Je les ai vus 5-6 fois, oui. Ah, et j'ai été moi-même victime du naufrage dans cette caravane secouée par 4 ou 5 d'entre eux.
D'accord.
Trop bien. Et donc là aussi, c'est des tournements.
Oui. Et ben, donc ouais, donc nous on a des expositions aussi, ce que je disais, des expositions interactives sur le thème de la, une sur le thème de la musique, une sur le thème du jeu vidéo, tout en récup d'objets aussi, hein, donc on sait qu'on a fabriqué des jeux vidéo et des instruments de musique dans des vieilles horloges comptoises, des vieilles machines à coudre, des radios, des vieilles télé, donc du vieux mobilier. Ça tourne encore, enfin ça tournera à nouveau dès qu'on en aura le droit. Et cette année, il y a deux nouvelles créations. surtout pour finir, qui vont sortir cette année, une création qui aurait dû sortir en mars dernier et qui n'a cessé d'être repoussée et qui là va enfin sortir en février, qui s'appelle Les Songes d'Elisabeth. Donc là, c'est un trio sur scène entre un régisseur plateau, un musicien et une artiste de cirque. C'est un spectacle sur le rêve, c'est presque trois solos, celui du régisseur, celui du musicien, celui de l'artiste, qui vont être coincés dans une boucle temporelle, chacun la leur, et puis cette boucle va finir par se décaler jusqu'à créer la rencontre entre ces artistes qui au début du spectacle ne faisaient que se croiser sans jamais se voir. Mais les choses, là, il y a un petit grain de sable, et puis la mécanique se décale, et tout d'un coup, comment ces trois individus dans leurs trois univers clos se rencontrent et échangent. Donc ça, c'est les Songes d'Elisabeth pour février. Et puis pour Noël prochain, moi, je sors une nouvelle création qui sera un solo.
Vous, donc, Francis Thévenin.
Voilà, les petits machins trucs s'arrêtant de tourner, et le ministère des inventaires, l'autre spectacle aussi avec mon partenaire Gaël s'arrêtant, je repars sur une création qui devrait sortir à Noël, qui sera du musique et clown, sur un thème assez simple, hein, un clown qui devait venir jouer un concert à 5 ou 6 musiciens, sauf qu'au moment du concert, eh ben, personne n'est venu et il est tout seul, avec 5-6 chaises, 5-6 pupitres et 5-6 instruments. Donc pour un clown, de quoi s'embêter la vie, d'avoir beaucoup trop à gérer pour lui tout seul. Donc ça sera toujours tout public, toujours dans du divertissement.
Et ça sort.
Et ça sera pour Noël prochain.
Merci beaucoup. Voilà. Hein. Ben voilà, on a fait un petit tour, les amis. J'aimerais bien aussi parler de compagnie de cirque là, du côté de Saint-Franc, avec mon amie Diane. Mais vous la connaissez peut-être.
Oui, oui.
Diane, bon, si tu nous entends. Hein. Bon, et ben voilà, merci beaucoup. Et à une autre fois encore, si vous voulez réagir, hein, à une culture du divertissement qui ne soit pas une culture de domination et d'abrutissement, comme on en voit tant à la télé, enfin télé, je veux dire, qu'on regarde quand on va travailler et qu'on se couche tard, parce que même la 5, si vous regardez après minuit, vous avez des choses merveilleuses, et surtout Arte, les amis, toujours Arte, vous avez des choses merveilleuses si vous n'avez pas la possibilité d'aller à les spectacles. Donc je répète, Les Songes d'Elisabeth, février, trois solos qui vont devenir nous quelque chose, et puis musique et clown, personne ne vient, comme un symbole aux désastres actuels. Merci encore.
C'était La Scène Cause pour un bien commun et un monde vivable.